Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chasseur me tuera, lapin entrera, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Rebecca est la maman de 3 enfants, mais pour en arriver là, elle a dû vivre un véritable parcours de combattante. Entre maladie génétique, grossesse surprise et interruption médicale de grossesse, Rebecca et son mari ont dû faire des choix souvent difficiles pour construire leur jolie famille. Dans cet épisode, Rebecca nous raconte la découverte de sa maladie génétique héréditaire au moment même où elle décidait d'avoir son premier enfant. Tout a basculé alors sur le chemin de la maternité pour cette maman qui a connu 6 grossesses et 3 naissances, mais qui n'a jamais baissé les bras. Bonne écoute.
Bonjour Rebecca, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Bonjour Shane, je suis ravie d'être là.
Alors ça fait plus de 15 ans que tu es avec ton chéri.
Oui, ça fait 16 ans cette année, oui.
À quel moment le sujet de la maternité est arrivé dans votre couple ?
Assez tôt pour lui et plus tard pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, on a 8 ans d'écart, je l'ai rencontré, j'allais avoir 19 ans, je rentrais en école de commerce et du coup, j'avais envie de profiter, de voyager, etc. etc. Donc en fait, on a passé beaucoup d'années tous les deux, jusqu'en 2010, où on s'est mariés, donc on a passé 7 ans à voyager, à profiter, à sortir, à faire la fête. Et puis quand j'ai eu 25 ans, on a commencé à se dire que tiens, ça pourrait être pas mal. Donc c'était, on a mis 7 ans, 8 ans à se dire que c'était le bon moment. Et puis à ce moment-là, j'ai appris que j'étais porteuse d'une maladie génétique. Et c'est là où tout le parcours bébé a commencé.
Toi, tu avais toujours eu ce désir de maternité ?
J'ai toujours su que j'aurais des enfants, mais je me suis jamais dit à 15 ans, tiens, je vais avoir des bébés. Non, je savais que j'en aurais. Après, ma mère, elle avait beaucoup de difficultés à nous avoir, et donc j'étais préparée au fait que ça pourrait ne pas être facile, mais pas pour les raisons finalement qui ont fait que ça n'a pas été facile. Mais je savais que finalement, avoir des enfants pouvait ne pas être un parcours ou un long fleuve tranquille.
Et c'est donc ta maman qui est atteinte de cette même maladie génétique.
Exactement. En fait, ma maman a une maladie génétique qui s'appelle la dystonie. C'est une maladie neurologique, c'est une maladie orpheline. On a mis beaucoup d'années à la diagnostiquer, en fait. Je ne sais même plus à quelle date elle a été diagnostiquée, mais j'avais déjà... je devais avoir quasiment 15 ans. Donc elle a eu pendant longtemps des symptômes, et comme toutes les maladies génétiques, le temps qu'on trouve, c'est long. Et puis quand on a su ce qu'elle avait, elle a été opérée du cerveau. Donc à Montpellier, je suis allée la voir, j'ai vu des enfants qui étaient atteints de cette maladie. Et puis quand elle a été mieux, qu'elle est sortie de l'hôpital, c'était quasiment l'année où je me mariais, ou peut-être l'année d'avant. Et puis elle m'a dit, écoute, il faudrait quand même que tu saches, parce que si jamais tu es porteuse aussi, vu que c'est une maladie héréditaire, c'est important que tu le saches avant d'avoir des enfants. Bon. Et à ce moment-là, moi j'allais très bien, donc je lui ai dit, oui, je vais le faire pour te faire plaisir. Enfin, je ne vais pas dire pour te faire plaisir, mais l'idée pour moi c'était, j'allais très bien, il n'y a pas de raison, donc je vais aller faire ce test. Donc je suis allée faire ce test génétique. Et puis un mois après, j'ai eu un coup de téléphone du professeur de génétique qui m'a demandé à me voir. Alors là, le ciel m'est vraiment tombé sur la tête, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'annonce que j'étais également porteuse de cette maladie, et qu'en fait, on pouvait être porteuse saine, comme moi, c'est-à-dire n'avoir aucun symptôme, mais être porteuse et donc pouvoir transmettre, de la même façon que ma maman me l'avait malheureusement transmise, en fait. Et que c'était une maladie qui pouvait être asymptomatique comme moi, Ou alors, si on était porteur, avoir des degrés de maladie qui pouvaient être très variables, mais qui pouvaient aller de la simple, enfin simple entre guillemets, hein, difficulté pour écrire ou pour marcher, à des enfants qui pouvaient être grabataires. Donc c'est un peu comme ça que les choses se sont faites, et donc j'avais 25 ans, ouais, un peu moins de 25 ans, et à ce moment-là, j'ai compris que les difficultés qui allaient arriver ne seraient pas les mêmes que ma maman, mais que ça serait probablement d'autres, puisque le professeur nous a expliqué, à Marie et moi, qu'on pouvait en fait s'inscrire et faire partie d'un protocole qui permettait en fait de faire une fécondation in vitro, mais qui était particulière puisque c'était une fécondation in vitro où on sélectionnait en fait des embryons qui ne seraient pas porteurs de cette anomalie génétique. Et que pour ce faire, il fallait qu'on s'inscrive sur une liste d'attente et que la liste d'attente pouvait être longue. Mais qu'au moins, ça permettrait qu'on ait des enfants qui, en tout cas, n'aient pas cette maladie-là.
Donc pas possible de faire un enfant naturellement ?
Possible. Toujours possible, mais alors là le parcours était différent puisqu'en fait si on décidait de faire un bébé naturellement, on pouvait ou choisir de ne rien faire, de ne rien savoir et c'était notre décision, ou alors faire le choix à 12 semaines de faire un diagnostic prénatal, ça s'appelle une biopsie du trophoblaste où en fait je le sais puisque finalement je l'ai fait, hein, donc où en fait on prend du trophoblaste, donc on met une aiguille dans le ventre, on prend du trophoblaste, c'est en fait ce qui vient avant le placenta, et on fait une analyse génétique dessus, et ça permet en fait d'avoir le même patrimoine génétique que le bébé, donc ça permet en fait de savoir si à 12 ou 13 semaines d'aménorrhée l'embryon ou le fœtus est porteur ou pas de l'anomalie génétique, donc c'est possible. Mais du coup ça veut dire que si l'embryon ou le fœtus est porteur, et ben il faut prendre des décisions après. Donc les deux étaient possibles. Et donc nous, à ce moment-là, on s'est inscrits sur cette liste d'attente. On s'est mariés. Et puis, après un an après être mariés, donc en 2011, on s'est dit, bon, on n'a pas été appelés. Ça fait un an ou un an et demi, je ne sais plus. On va essayer de faire un bébé et puis on verra bien. Et puis, je suis tombée enceinte donc en 2011. Oui. Et puis, à 11 semaines d'aménorrhée, j'ai eu un arrêt de grossesse. Donc j'ai fait un curetage. Ça a été une période qui était compliquée hein, parce qu'on s'y attendait pas. On s'attendait à d'autres galères, mais pas celle-là. Donc
pas du tout dû au.
Rien à voir. Ouais. Ah non, c'était comme une grossesse sur quatre. Une première grossesse sur quatre, c'est ce que j'ai appris après, qui se termine par une fausse couche, sauf qu'on le dit pas et que donc c'était une grande surprise. Donc ça a été une période qui était quand même très compliquée. Et puis ça nous a permis de nous rendre compte en fait avec mon mari que. Ben, si on faisait un bébé et que on faisait ce diagnostic prénatal et qu'on nous annonçait que l'embryon était porteur de l'anomalie génétique, la décision d'arrêter cette grossesse serait très très difficile à prendre parce que on pouvait être porteur et sain comme moi et que donc ce bébé, même porteur, le futur bébé pouvait être porteur mais aller très bien et qu'on n'arriverait pas en fait à prendre cette décision. Et donc à ce moment-là, n'ayant toujours pas été appelé par l'hôpital, on a décidé d'essayer de refaire un bébé et de ne pas le tester. Et en 2012, j'ai eu un petit garçon qui aujourd'hui est en pleine santé et donc dont on ne sait pas s'il est porteur ou pas, mais en tout cas qui aujourd'hui va très bien. Et puis l'ironie de l'histoire, c'est quand même que 2 jours après avoir accouché à la maternité, l'hôpital m'a appelé pour me dire que j'avais une place. Donc là, je leur ai dit que bah, c'était super, mais que je venais d'accoucher, et que donc ça serait pour bébé numéro 2.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
C'était un premier, j'étais assez angoissée les 3 premiers mois parce que j'avais eu un arrêt de grossesse, et que donc, une fois qu'on n'a pas passé le terme de l'arrêt de grossesse précédent, c'est toujours une période un peu compliquée. Après, très bien, je m'étais dit que j'étais enceinte, que j'allais me faire plaisir, donc j'ai bien grossi comme il faut, j'étais en pleine forme, et puis j'ai accouché naturellement, j'ai perdu les os une semaine avant mon terme, j'ai eu un accouchement qui s'est super bien passé, non, nickel, franchement super. Après, retour à la maison, un peu sport, parce qu'on n'était pas très... nos familles vivant pas à Paris, on n'était pas très aidés, c'était l'hiver, c'était glauque, enfin j'ai trouvé que c'était super dur en fait, ces premiers mois où je me suis dit, voilà, les 3 premiers mois d'un bébé, c'est horrible, il mange, il pleure, on comprend pas ce qu'il a, il a mal au ventre, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé que c'était hyper dur, quoi. Ouais. Donc voilà, et puis après c'est passé, Et puis donc on s'était dit, bon bah voilà, bébé 2, ça sera donc ce protocole de FIV avec diagnostic préimplantatoire.
Parce que là vous aviez la place du coup.
Du coup on avait une place et il fallait juste qu'on leur dise à quel moment on voulait et qu'ils nous mettent dans une série qui correspondait au timing qu'on avait, qui nous convenait. Et puis, quand mon fils a eu un an, donc 2013, ben j'ai pas eu mes règles. Et alors que j'avais un stérilet, donc surprise quoi. Donc je ne m'inquiète pas parce que bon, j'ai un stérilet, donc je me dis ça va, j'ai un moyen de contraception, il n'y a pas de problème, je dois être fatiguée, on attend un peu, puis j'attends un peu, puis ça ne vient pas quoi. Donc je fais un test et là il est positif. Waouh! Alors ça c'est le choc parce que, encore une fois, moi, on m'a jamais dit qu'un stérilet en fait c'était pas un moyen de contraception. C'est-à-dire que après le gynécologue m'a dit ah, une grossesse sur 200, non, un stérilet posé sur 200 conduit à une grossesse. Qui est beaucoup en fait. Oui, oui. Parce qu'en fait, en stérilet, ça n'empêche pas la fécondation, ça empêche la nidation de l'œuf. Sauf qu'en fait, bah, moi, la grossesse, elle a pris loin du stérilet, donc en fait, je me suis retrouvée enceinte. Bon. Et donc là, est arrivé le premier moment où il a fallu prendre des décisions difficiles, puisque 6 mois après, on devait commencer cette FIV. Mmh. Et qu'on s'est dit avec. Donc on a beaucoup discuté avec mon mari. C'est compliqué, à chaque fois c'est des discussions compliquées parce que lui n'est pas porteur de cette maladie génétique, et même, mais il subit quoi. Mmh. Donc en fait, finalement, toute décision c'est la mienne, et lui il l'accompagne, mais finalement, c'est quand même très, c'est très compliqué et c'est quand même assez culpabilisant à chaque fois parce que on lui fait vivre quelque chose qu'il n'a pas demandé et qui n'est pas facile quoi. Et donc là, la question qui s'est posée c'était de dire bah, soit on garde cette grossesse et on fait ce test prénatal à 12 semaines. Sachant qu'une grossesse au stérilet, de toute façon, c'est une grossesse risquée au départ. Hein.
Ah oui ?
Ouais, plus risquée, parce qu'il faut enlever le stérilet et que ça peut conduire à une fausse couche. Ou alors on l'enlève pas et là, bah, advienne que pourra, quoi.
D'accord.
Il y a des grossesses au stérilet qui vont très bien, hein, mais bon, le gynéco m'avait vite dit prenez un risque avec une grossesse au stérilet, de toute façon, ce sera une grossesse qui sera beaucoup plus suivie. Donc soit on se disait, bah, on continue cette grossesse, on fait ce test prénatal et puis on verra bien, soit on se disait, bah, non, on arrête cette grossesse et on fait cette FIV. Bon, et finalement le choix qui a été fait c'était d'arrêter cette grossesse, donc j'ai fait une IVG assez tôt hein, c'était à 9 ou 10 semaines pour faire cette FIV à venir. Et puis évidemment j'ai eu des complications que j'avais déjà eues quand j'ai eu mon premier arrêt de grossesse qui en fait c'est de la rétention de placenta, donc il y a du placenta qui reste accroché, donc il faut être réopéré après la première intervention pour nettoyer tout et pour avoir un utérus qui permet d'avoir des bébés. Donc évidemment j'avais eu ça la première fois avant mon fils, je l'ai re-eu à ce moment-là, et puis j'ai commencé le protocole de FIV en mai 2014, et 5 jours après le début du protocole, qui est en fait des piqûres qu'on se fait tous les jours, et puis tous les 2 jours on va à l'hôpital pour faire une échographie et une prise de sang, l'hôpital m'a appelé en me disant que je répondais pas du tout au protocole et qu'on l'arrêtait. Alors là c'est la claque mais absolue quoi, c'est-à-dire que moi 5 mois avant je venais d'arrêter une grossesse pour faire un bébé qui ne soit pas atteint d'une maladie génétique et là on me dit vous répondez pas au protocole. Alors là c'est waouh, donc c'était la bonne claque, donc là ça m'a fait le bon coup de massue. Et puis l'hôpital m'a dit écoutez c'est pas grave, c'était pas le bon cycle, on retentera après l'été.
Oui, c'était pas définitif, ça non. Marche pas.
Sauf qu'il fallait potentiellement changer le traitement, essayer un autre traitement, parce qu'en fait chaque cycle, il y a des bons cycles, des moins bons cycles, des cycles où on a une bonne qualité d'ovules, d'autres moins, enfin bon, et là c'était pas le bon cycle quoi. Donc je passe l'été et puis je retourne à l'hôpital au mois de septembre et là je commence un protocole à nouveau avec un autre traitement et puis là ça marche. Donc là je suis tombée enceinte de ma fille. Bah, ça c'est un protocole qui en fait est somme toute entre guillemets classique comme une FIV, c'est-à-dire que bah, on se fait des piqûres. Enfin, moi, je me faisais mes propres piqûres, parce que j'avais pas envie de devoir attendre à heure fixe que quelqu'un vienne chez moi, et puis je travaillais, donc il n'y avait pas de sujet. Je me faisais mes piqûres, et puis tous les 2 matins, j'allais à 6h du matin à l'hôpital, m'inscrire sur liste d'attente, et puis pour que bah, on me fasse ma prise de sang et mon échographie, et qu'on me dise si le traitement était bien dosé, pas bien dosé, ce qu'il fallait faire, etc. Jusqu'au moment où on m'a fait cette ponction où du coup on vous prend vos ovocytes et puis après votre mari il va faire un recueil de sperme et puis on fait un bébé, enfin en tout cas à ce moment-là on féconde des embryons. Et puis la particularité en fait du protocole, c'est que au bout de 3 jours de vie de l'embryon, il part en test génétique à Necker. Et puis, donc il faut qu'il soit, il faut qu'il soit suffisamment solide entre guillemets pour passer le test génétique, pour que la manipulation qu'on fait ne l'abîme pas, qu'il continue de se développer. Et donc au bout de 5 jours. On vous reconvoque et on vous dit s'il y a ou pas des embryons et s'il y en a ou pas qui sont sains. Donc c'est vraiment surprise quoi. Et s'il y en a qui sont sains et qui vont bien, on vous les implante. Donc on a fait tout ça. Moi j'ai fait ma ponction en anesthésie locale parce que j'avais pas envie d'être endormie et puis j'avais envie d'être un peu présente et de voir un peu comment les choses se passaient. Et puis au bout de 5 jours, on nous a appelés et on nous a dit qu'on avait 2 embryons qui étaient sains et qui... 3 embryons qui étaient sains. Et on m'a proposé de m'en implanter 2 et d'en congeler 1. Et donc on en a implanté 2. Et puis finalement, le 3e n'a pas tenu la congélation. Et du coup, finalement, ça conduisait à ce que si on voulait un autre bébé, il fallait tout recommencer, quoi. Donc on m'a implanté 2 embryons. Et puis, il y en a un qui a tenu et j'ai eu ma fille. En juin 2015... Donc super, donc 2 bébés, un qui a priori n'a rien, mais en tout cas qui n'est pas testé, et puis une petite fille qui en tout cas n'a pas cette maladie là, donc une première victoire.
Et comment s'est passée cette deuxième grossesse?
Cette deuxième grossesse,
tu étais plus suivie du fait?
Ah non, pas du tout. En fait, une fois qu'on est enceinte, on retourne dans un parcours complètement classique avec un suivi classique d'un gynéco, voilà quoi. Donc vraiment rien de particulier. Et là, j'ai été déclenchée 15 jours avant mon terme parce qu'on pensait que... Enfin, le gynécologue pensait que c'était un gros bébé. Et donc, j'ai été déclenchée 15 jours avant. En fait, c'était pas du tout un gros bébé, mais enfin, elle allait très bien. Et puis, finalement, moi, j'ai trouvé que le déclenchement, c'était un truc incroyable parce que, en fait, je suis accouchée... sans aucune douleur, avec un col qui était ouvert déjà, et ça a mis 3 heures, j'ai pas eu une contraction douloureuse, j'ai trouvé que c'était exceptionnel, quoi. Je me suis dit, mais en fait, si on peut accoucher comme ça, c'est royal, mais absolu, quoi. Donc, je sais qu'il y a des femmes qui ont accouché, qui ont eu des expériences de déclenchement horribles, mais alors moi, j'ai eu un truc exceptionnel, en clinique, super bien, je me suis dit, oh là, alors si j'avais su, j'aurais tout de suite fait ça. Après, je pense que c'était un deuxième, le col était favorable, il y avait plein d'éléments qui faisaient que, mais alors vraiment, accouchement royal, j'ai eu des grossesses qui étaient... chacune de mes grossesses a été hyper sereine, hyper facile. Là, je m'étais dit quand même... J'essaye de prendre un peu moins de poids parce qu'après, en fait, c'était un peu dur quand même à reperdre. Donc, je m'étais un peu plus limitée, je dirais. Puis, j'avais un premier qui demandait beaucoup d'énergie. Je travaillais. Donc, de toute façon, c'était pas pareil, quoi. Donc, non, au moins, dans tout ce parcours, j'ai toujours eu des super grossesses. Et donc ça, c'est non. J'ai eu des grossesses et des accouchements qui ont toujours été nickel. Donc voilà. Donc Salomé, ma fille, est née en juin 2015. Et puis donc là, on s'est dit bon, on a 2 enfants, c'est super, on va profiter un peu. Et on a dit à l'hôpital, écoutez, on en fera peut-être un 3e. On va se laisser 2-3 ans et puis on verra quoi.
Là, tu dois te remettre sur une liste d'attente ou t'es d'office
Non, en fait, y a plus de question de est-ce que tu vas être prise ou pas. Parce qu'en fait, au départ, quand tu es sur liste d'attente, il y a un collège génétique qui se réunit, on parle de ta maladie, il t'explique ce que c'est. Donc, c'est une genre de sélection quand même qui est faite. Une fois que t'es rentré dans le protocole, c'est plus comme ça. D'accord. En revanche, il faut qu'il y ait une place pour toi au moment qui te convient. Et puis surtout, il faut que tous les examens que tu dois refaire à chaque fois soient toujours bons. Parce que parfois, t'as des examens qui, tout d'un coup, finalement... t'as des examens qui sont pas bons, quelque chose a changé dans ton corps, et en fait, tu n'es plus éligible à ce que ça marche. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une FIV, déjà, au départ, c'est 25 à 30% de taux de réussite. Une FIV classique. Mais quand, en plus, il y a cette étape de sélection d'embryon, les statistiques sont encore moins bons. Donc, c'est peut-être du 20%, quoi. Donc, il faut vraiment que ton corps soit... que tous les voyants soient au vert pour qu'on puisse tenter de faire ce protocole de FIV des pays, parce que déjà les taux de succès sont faibles, ils coûtent très cher. Il coûte très cher à la sécurité sociale. Hein.
Mmh. Et donc, tu payes rien.
Ça, c'est la beauté du système français, c'est quand même qu'on a une médecine de pointe. Parce que quand on pense à la chance que nous, on a eue, on a quand même manipulé et testé génétiquement des embryons. Manipuler, c'est pas le bon terme, parce qu'en fait, on fait aucune modification génétique. C'est juste qu'on regarde génétiquement si ces embryons sont malades ou pas. Mais c'est quand même dingue quand on y pense. Et puis, c'est pris en charge par la collectivité, en fait. Ce qui fait que c'est accessible à quiconque, quelle que soit la classe sociale. Enfin, voilà, ça c'est quand même, il faut quand même le dire, c'est quand même une chance incroyable qu'on a en France de pouvoir faire ça. Mais donc, une fois que, si les examens qu'on refait, tout est bon et que tous les voyants sont au vert, ben, on trouve un créneau et puis on s'arrange avec l'hôpital. Voilà. Et donc, on s'était dit avec mon mari qu'on allait se donner 2-3 ans, et puis quand ma fille a eu 2 ans, on s'est dit, bon bah allez, on va y retourner. De toute façon, une FIV, on sait jamais si ça va marcher du premier coup, du deuxième, du troisième. Donc on y retourne et puis on verra bien, quoi. Et pour en fait faire un protocole de FIV, il faut, donc il y a toute une préparation en fait qui doit être faite avec l'hôpital. On arrête sa contraception, ils nous en donnent une autre, on prend des médicaments pour préparer le col, l'utérus, etc. Bon. Et donc, on avait convenu avec l'hôpital que je recommençais un protocole en mars 2018. Oui, c'est ça. Et puis, fin janvier 2018, j'ai pas mes règles. Et là, j'ai plus de contraception, puisque ben, ils viennent de m'arrêter ma contraception pour commencer le protocole. Donc, je me dis, oh, bah, de toute façon, je viens d'arrêter la pilule, donc c'est un premier mois, il y a un retard, enfin, bon, voilà. Et en fait, ben, je découvre que je suis enceinte, quoi. Donc, bon, un mois avant le protocole, donc j'appelle l'hôpital et je leur dis, bah écoutez, voilà, il y a un changement de plan, je suis enceinte. Et ils me disent, bah ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, avec mon mari, on réfléchit à nouveau et on se dit, bon, t'es enceinte, il y a quand même 50% de chance que tout aille bien. Puisqu'en fait, la maladie génétique que je porte, c'est un risque sur deux de la transmettre à chaque fois. D'accord. Donc c'est quand même une chance sur deux que ça aille, quoi. Et donc on se dit, bon, t'es quand même enceinte, une chance sur deux, c'est pas rien, une FIV, c'est que 20%, donc on a déjà deux enfants, on peut accepter l'idée que ça se passe pas comme on veut, mais on va du coup essayer quand même d'avancer dans cette grossesse et de faire ce fameux diagnostic prénatal.
À 12 semaines.
À 12 semaines, cette biopsie du trophoblaste. Donc on prend cette décision. Et là, on se dit, ok, mais en fait, c'est maintenant à froid qu'il faut qu'on décide de ce qu'on va faire pour la suite, parce que s'il y a un problème, il faut qu'on ait décidé tout de suite de ce qu'on fait. Parce qu'une fois que je serai enceinte de 3 mois et que si on nous annonce une mauvaise nouvelle, on n'aura plus l'esprit suffisamment clair pour décider en toute conscience.
Si tu avortes ou si tu...
Exactement. Si je fais une interruption médicale de grossesse, puisque ça s'appelle comme ça quand c'est pour des raisons médicales, mmh. ou si on continue. Et donc on décide d'arrêter et de se dire, si jamais au diagnostic prénatal, l'embryon est porteur de cette maladie génétique, on arrêtera la grossesse. Bon. Donc là, 12 semaines se passent, où là, moi je suis en mode, t'es enceinte, mais t'es pas enceinte, quoi. C'est-à-dire que ma façon de les vivre, ça a été de me dire, tout va bien, il ne se passe rien. J'étais un peu fatiguée, je savais que j'étais enceinte, hein. C'était pas du tout un déni ou quoi que ce soit, mais vraiment, je ne vivais pas cette grossesse en tant que telle. D'ailleurs, j'ai pris 0 gramme, ce qui m'est quand même jamais arrivé dans aucune de mes grossesses. Et je me disais, bon, tant qu'on sait pas, tout va bien. Alors que mon mari, lui, c'était, tant qu'on sait pas, c'est horrible. Donc lui, je vivais pas du tout les choses comme moi. Et je me souviens même d'être partie... on avait un week-end de copines organisé juste à le week-end avant que je fasse le test génétique, le diagnostic prénatal. Et mon mari m'avait dit, mais tu vas y aller? Je lui ai dit, bah oui, bien sûr que je vais y aller. Et il m'avait dit, ah non, c'était pas le week-end avant, c'était juste après que je l'ai fait. Donc c'était entre nous, on avait fait le test prénatal et le résultat. Il m'a dit, mais tu vas y aller? Je lui ai dit, bah bien sûr, je vais y aller. Il m'a dit, mais comment tu fais? Et je lui ai dit, mais dans tous les cas, soit tout va bien et je serai contente d'avoir fait mon week-end, soit après ça ira mal et je serai contente d'avoir fait mon week-end, en fait. Et donc je me souviens d'être partie, il m'avait dit, mais genre j'étais un ovni pour lui, quoi. Parce que lui, pour lui, c'était vraiment super dur. Et donc...
Et vous en avez parlé aux enfants de cette grossesse ?
Non, pas du tout. Non, on n'en a pas parlé. Notre fille, elle avait 3 ans. Notre fils, il avait 5 ans. Je leur disais juste que le soir, j'étais fatiguée. Et puis voilà. Mais on n'en avait pas parlé. Et puis, donc, on fait ce test prénatal à 12 semaines. Donc, ça s'appelle une biopsie du trophoblaste. Où là, donc on va à l'hôpital et on fait cette... c'est en anesthésie locale. Et on fait, donc il y a une grande aiguille qu'on nous met dans le ventre, on prélève un petit morceau de trophoblaste. Le trophoblaste, en fait, c'est ce qui vient donc avant le placenta. Et on fait cette analyse génétique. Et donc je vais à l'hôpital, et en même temps, oui, en même temps, c'est l'échographie des 12 semaines. Ce qui est quand même bizarre. Mmh. Parce que on vous fait l'écho des 12 semaines, et après on fait cette biopsie, tout en sachant qu'en fait, on peut devoir arrêter la grossesse. Et donc nous, on avait demandé à l'hôpital de cacher l'écran. On avait dit qu'on ne voulait pas voir l'échographie, en fait. Mais qu'on voulait garder les résultats parce que voilà, mais on voulait pas voir l'échographie. Donc ils nous font l'écho avec l'écran caché, quoi. Bon, il faut aussi faire la prise de sang de la trisomie et tout parce que bon, si la grossesse va bien, il faut avancer, quoi. Ouais. Donc c'est quand même très bizarre. Et puis donc on va pour faire l'examen de la biopsie et puis là les médecins me disent qu'en fait ils y arrivent pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire on n'y arrive pas ? Ça veut dire que mon utérus étant rétroversé, il n'est pas dans une position qui fait que c'est accessible par l'aiguille et que donc ils peuvent pas le faire. Et donc ils me disent il faut que vous reveniez dans 5 jours. Et donc là je me dis ok, donc on repart. 5 jours après on y retourne et dans ma tête je m'étais dit, parce qu'ils m'expliquent que s'ils n'y arrivent pas dans 5 jours, il faut attendre 16 semaines pour faire une amniosynthèse.
Ouais.
Et là je m'étais dit, et que si à l'amniosynthèse il y a un problème et que le résultat est pas bon, et il faudra, si on décide d'arrêter la grossesse, il faut accoucher. Moi, ça, c'était ma limite psychologique, en fait. C'est-à-dire que j'étais hyper solide dans tout ce parcours, mais accoucher, arrêter une grossesse et accoucher, je pouvais pas. Mmh. Et ce, d'autant plus qu'en fait, comme cette maladie génétique, on peut être porteur et sain, déjà, c'est une décision très difficile à prendre si on décide d'arrêter. Donc, je savais que si j'accouchais... Après avoir pris cette décision sans savoir ce qui aurait pu se passer, ça allait vraiment être trop difficile pour moi. Et donc je m'étais dit, si on n'arrive pas à faire la biopsie du trophoblaste, eh ben tant pis, je porterai sa grossesse au bout, et puis comme mon fils, on ne saura pas. Et puis là, en fait, ils ont réussi à faire la biopsie. Donc je suis repartie, et ils m'ont dit, écoutez, dans une semaine, à peu près une semaine, on vous appelle. Moi j'appelais tous les jours parce qu'en fait je voulais accélérer le laboratoire parce que je me disais, en fait le timing, comme ils avaient dû repousser d'une semaine, c'était hyper crack pour que si jamais on doit arrêter la grossesse, je n'ai pas à accoucher en fait et qu'ils fassent une aspiration. Et donc tous les jours j'appelais en disant, vous avez des nouvelles, vous avez des nouvelles. Ils me disaient, non mais je vous assure, on les mobilise, ils vous ont mis en priorité, etc. etc. Bon, et le mardi 10 avril, j'en souviens très bien, mardi 10 avril 2018, Necker nous a appelé, il nous a dit qu'ils avaient un résultat, ils nous ont demandé de venir. On arrive dans la salle d'attente et je vois la conseillère génétique et à sa tête, je vois que ça va pas en fait. Je vois tout de suite qu'il y a un problème. Et donc elle me dit, elle nous dit, on a une mauvaise nouvelle. L'embryon, il est porteur. Et à nouveau, moi je m'effondre quoi. C'est-à-dire que là, c'était la décision qu'on avait attendue et on l'avait, mais c'était pas celle que je voulais quoi. Et mon mari, il était soulagé de savoir. Et donc là, ils nous disent, l'embryon est porteur, vous savez que ça ne veut pas dire que vous aurez un bébé malade, mais en tout cas, voilà, maintenant, vous avez, on a la réponse, et il faut que vous décidiez de ce que vous faites. Et ils nous disent aussi, par contre, si vous souhaitez faire une interruption médicale de grossesse, et que vous ne voulez pas accoucher, il faut qu'on la fasse au plus tard vendredi.
Donc c'était combien de temps après ?
3 jours, on était mardi. Donc... c'est hyper rapide en fait. Et donc là, on se dit, on a décidé d'arrêter, donc il faut arrêter. Et au fond de moi, j'ai un truc qui me dit, ouais, mais avant d'être sûr que c'est ça la bonne décision, il faut quand même que tu parles à un généticien, à un neurologue pour comprendre. Donc par chance, on est suffisamment bien accompagné à l'hôpital pour pouvoir parler à un neurologue, pour pouvoir parler à un généticien dans des délais hyper courts. Hein. Et puis, je me dis, quand je suis allée à Montpellier voir ma maman quand elle avait été opérée, que j'avais vu ses enfants qui étaient malades, j'ai gardé cette image et je me dis, je peux pas prendre ce risque, en fait, c'est pas possible, quoi. Et donc, je parle avec le neurologue, je parle avec le généticien, parce qu'à la fin, c'est toujours toi, ta maladie, ton corps, donc c'est ta décision, quoi. Ouais. Et moi, mon mari m'a toujours dit, je te soutiendrai toujours dans nos décisions, mais qui sont les tiennes et qui deviennent les nôtres, quoi. Mmh.
Et c'était quoi tes questions?
Bah, je me disais, concrètement, si cette grossesse, je la poursuis et que j'ai un bébé, enfin, j'ai un enfant qui un jour est malade, à quel âge on sait qu'on est malade, comment ça se manifeste, qu'est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut être malade léger, qu'est-ce que c'est être malade grave, enfin voilà, j'avais besoin de. Parce que c'est pas pareil, je me disais, c'est pas pareil d'avoir une main qui tremble que d'être grabataire, enfin. Ouais. Donc j'avais besoin de comprendre à quel âge. On peut commencer à avoir des signes. J'avais besoin. Ma mère a commencé à avoir des signes, elle avait 10 ans. Je vois comment elle est aujourd'hui. Est-ce que ça peut être plus tôt? Est-ce que ça peut être plus tard? Enfin bon. Finalement, des questions dont on attend des réponses qui ne sont pas des réponses en soi, puisque chaque cas est différent. Donc, bon. Du coup, on décide d'arrêter la grossesse. Donc, de faire cette interruption médicale de grossesse que j'ai faite le vendredi 13 avril. Bon, c'est très dur, hein. On va pas se mentir, c'est très compliqué. Et surtout qu'en fait, j'avais pas voulu vivre ces 13 premières semaines comme une grossesse, et du coup, en même temps, fallait quand même que j'arrête quelque chose qui était réel, quoi. Ouais. Et bon, finalement, donc j'ai fait cette interruption médicale de grossesse. Et là, en fait, avec mon mari, on s'est dit, ok, mais en fait, il y a deux enfants à la maison, il faut qu'on leur dise quelque chose, parce qu'ils vont bien voir qu'on va pas bien. Et moi, je voulais pas. Autant j'avais été hyper solide sur tout le reste de tout ce qu'on avait fait avant, et autant là, je me disais, je pourrais pas faire semblant, et il faut que qu'on leur dise quelque chose pour qu'ils pensent pas que ça soit lié à eux. Et donc, se pose toute la question d'un genre de deuil périnatal, en fait. Même si c'est très tôt, c'était quand même ça a quand même existé, et donc il faut qu'on ait le droit d'être triste, et donc il faut parler aux enfants. Donc, à ce moment-là, j'ai été voir la psychiatre qui accompagne en fait les protocoles à Necker, pour savoir ce qu'il fallait leur dire, pas leur dire. Et donc, j'ai été opérée. Et j'avais dit à l'hôpital, ils étaient hyper vigilants. Leur attention avait été très fortement attirée sur le fait que j'avais eu des problématiques dans le passé de rétention de placenta, et qu'il fallait vraiment qu'ils me mettent dans les meilleures dispositions pour que je puisse faire cette FIV plus tard, quoi. Mmh. Et qu'il n'y ait pas de complications, qu'il ne me reste pas de placenta, et que vraiment, on avait mis des warnings partout. En plus, dans des rétentions de placenta, il y a un risque en fait d'hémorragie. Ah oui. Donc ils savaient qu'il fallait des poches de sang. Donc, en plus, il y avait tout un truc qui était de me dire, oh, si cette opération ne se passe pas bien, etc. Enfin bon, bref. Mais en même temps, j'étais dans un des meilleurs hôpitaux, il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas bien, donc bon. On fait l'intervention, qui se passe très bien. Et puis au réveil, ils me disent, bon bah écoutez, tout s'est hyper bien passé, il reste rien, c'est sûr. Bon. Je rentre chez moi, j'étais très très mal, hein. Vraiment c'était horrible. C'est la première fois en fait dans tout ce parcours que je me suis effondrée en fait quelque part, parce que en fait j'avais toujours été hyper combative, hyper battante en me disant tu vas avoir tes bébés, et là c'était le coup de massue, quoi. Donc on a parlé aux enfants. Mon fils a très bien compris. Il a reposé plein de questions après, a posteriori en fait. Et puis ma fille, elle a juste vu que sa maman était triste, ce qui a été très dur pour elle. Et du coup, après ça a été compliqué et je l'ai emmenée voir un pédopsie, parce qu'en fait elle prenait un peu ma tristesse et que c'était pas du tout sain, quoi. Donc elle était collée à moi tout le temps. Ça, c'était assez compliqué. Parce que j'avais appelé d'abord mon pédiatre qui m'avait dit, il faut dire aux enfants ce qui se passe. Il faut toujours leur dire. Et moi, en fait, je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de non-dits, surtout sur cette maladie, sur tout un tas d'autres choses. Et je m'étais toujours dit, je parlerai toujours à mes enfants, je leur dirai toujours les choses. Mais il faut trouver les mots, quoi. Et donc, le pédiatre m'avait dit, il faut leur dire. Je disais, mais il faut leur dire quoi? Mais il faut leur dire. Je disais, non, mais je peux pas leur dire comme ça. Enfin, c'est pas possible, c'est hyper violent. Et donc, la psychiatre de l'hôpital, j'ai été la voir la veille de l'interruption médicale de grossesse en me disant que voilà, on avait pris cette décision, mais que j'avais besoin qu'elle me dise, qu'elle m'aide à trouver les mots pour les enfants. Et elle m'avait dit, il faut jamais leur en dire plus que ce qu'ils veulent savoir. Donc, en fait, vous allez juste leur dire que vous étiez à l'hôpital. Et puis, vous allez voir ce qu'ils demandent, en fait. et vous ajusterez en fonction de, du besoin qu'ils ont de savoir. Et donc, ce qui était aussi important de dire, c'était que je suis allée faire cette interruption médicale de grossesse avec ma maman, et pas avec mon mari. Parce que, en fait, comme on voulait que ça soit une journée normale pour les enfants, et qu'il y avait école, et ben mon mari l'emmenait les enfants à l'école. Et que si c'était ma mère, sachant qu'elle vit pas avec nous, ça aurait été trop bizarre, ils auraient bien compris quelque chose allait pas. Mmh. Et que comme on voulait surtout pas les angoisser dans une journée dont on savait pas trop comment elle allait se passer, et ben, il fallait que mon mari les emmène à l'école. Donc moi, je leur ai dit que je partais tôt. Et donc ma mère m'a amenée à l'hôpital pour faire l'interruption médicale de grossesse. Ce qui en plus est assez bizarre parce que c'est ma mère qui est malade, qui a cette maladie génétique, qu'elle m'a transmise et sans quoi elle ne peut absolument rien, mais dont elle culpabilise quand même beaucoup. Et elle m'emmenait interrompre une grossesse d'un embryon qui était malade. Donc c'était hyper bizarre. Mmh. Et donc quand mon mari est venu à l'hôpital, on est rentré à la maison, et puis quand les enfants sont rentrés, il était genre 17h un vendredi, et là mon fils est arrivé, il a dit « qu'est-ce qui se passe ?» Parce que pour lui, que ses deux parents qui travaillent beaucoup soient là à 17h un vendredi, c'était forcément qu'il y avait un truc quoi. Et donc je lui dis « bah voilà, de toute façon vu ma tête, il a bien compris que ça allait pas », et donc on lui dit « maman est à l'hôpital aujourd'hui », et il me dit « ah bon, pourquoi ?» Et là, la psychiatre m'avait dit, il faut pas dire bébé, il faut pas dire mort. Enfin, voilà, il y a beaucoup de termes qu'il fallait pas utiliser. Et donc, je lui ai dit, ben voilà, j'étais enceinte, mais il y a eu un problème et il a fallu arrêter la grossesse. Je m'effondre en larmes. Et donc là, il comprend rien, quoi. Et il me dit, mais comment te l'enlever ? Je lui ai dit, on m'a endormie. Et là, du haut de ses 5 ans, il me dit « On t'a endormi ?» Mais je croyais qu'on endormait que les animaux sauvages. Un truc improbable, quoi. Donc je dis « Bah non, on m'a aussi endormi. » Et là, je pouvais plus parler, quoi. Et là, mon mari lui dit « Tu sais, c'est comme quand on plante des graines dans un jardin ou dans un potager. Il y a des graines qui deviennent des grandes plantes. Et puis il y a des graines qui poussent pas. Et ben là, c'est une graine qui pouvait pas pousser. » Et alors là, je pleure encore plus de l'entendre dire ça, parce qu'en fait, c'était exactement ce qu'il fallait lui dire, quoi. Et je sais pas comment il a trouvé ça, parce qu'en plus, il était pas venu avec moi chez la psychiatre, enfin, rien, quoi. Et du coup, mon fils dit « Ah, d'accord. » Et puis, il s'en va. Et il dit à ma fille « Ah, tu sais, Salomé, maman... » Et là, je lui dis « Non, tu lui dis rien. Si elle veut savoir, elle viendra nous poser des questions. » Bon. Et ma fille vient, elle me fait un câlin, elle s'en va. Le lendemain... J'entends mon fils dire à mon frère qu'on était parti en Normandie passer le week-end histoire de changer un peu d'air. En plus, c'était l'anniversaire de ma mère, un truc hyper glauque, enfin bref. Et j'entends mon fils dire à mon frère, tu sais, maman était enceinte et puis le bébé était malade, on a arrêté, et du coup, elle a arrêté la grossesse. Je me dis, mais truc de dingue, enfin, je lui ai pas du tout dit ça, quoi. Ouais. En fait, il avait tout compris, quoi. Bon, et puis on n'en a plus parlé, et je leur avais dit, si vous avez des questions, on en parlera quand vous voulez. Et puis finalement, ils ont des questions au fil de l'eau. Et en fait, chaque fois qu'ils m'en parlaient, je pleurais, c'était horrible, quoi. Et je leur disais, bah voilà, oui, maman est triste, mais bon, peut-être qu'un jour il y aura un autre bébé, on espère, etc., etc. Puis j'ai dû faire tout un travail avec cette psychiatre pour, en fait, déjà accepter l'idée que c'était un bébé qu'il avait existé, en fait. Parce que moi, je m'étais tellement verrouillée que je m'étais dit, non, mais. C'est pas un bébé, c'est un embryon, c'est rien. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Et donc, du coup, il y a eu tout un travail qu'il a fallu que je fasse pour... Bah, j'en pleure encore, comme quoi. Pour accepter que bah, ça avait existé et que ça faisait partie de notre histoire. Et pour pouvoir ensuite bah, projeter la suite, quoi. Et puis, donc ça, c'était au mois d'avril. Et puis, le mois de mai arrive. Juin arrive, j'ai toujours pas de règles. Et je me dis, putain, il y a un problème, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Et donc, j'appelle l'hôpital et ils me disent, bah, allez faire une échographie. De toute façon, il fallait que je fasse une échographie de contrôle. Donc, je vais faire mon échographie de contrôle au bout d'un mois. Et là, ils me disent, ah, bah, il reste du placenta. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans toute cette histoire, bon, j'aurais pas eu de problème à tomber enceinte, ce qui était quand même le problème fondamental qu'avait eu ma mère. Moi, c'est pas ça. Et puis, moi, ça s'accroche tellement qu'en fait, après, c'est toujours très compliqué, quoi. Et donc là, l'hôpital... qui doit me faire la FIV, elle me dit, ben écoutez, il faut évidemment nettoyer l'utérus, parce qu'on peut pas refaire on peut pas faire une FIV dans un utérus qui est pas où il y a du placenta, et puis en plus c'est hyper risqué, ça peut se nécroser, enfin bref.
Et c'est quoi, ils avaient mal vérifié au moment alors que tous les. Ils avaient été
probablement, alertés. Probablement. C'est qu'à l'échographie, ils ne voyaient plus rien. Et puis, en fait, bon, je ne sais pas. Okay. Et donc là, se pose en plus une question à nouveau. À chaque fois, c'est des choix qui sont hyper engageants. C'est soit de dire, bah, je vais faire cette intervention, du coup, pour enlever le placenta qui reste à l'hôpital qui doit me faire la FIV. Soit je vais voir le pont que j'ai vu les deux fois précédentes, où je sais que ça doit bien se passer. Mais si ça ne se passe pas bien, peut-être que l'hôpital aura pu me reprendre, quoi. Donc autant que je le fasse à l'hôpital, parce que c'est leur c'est leur cursus, donc s'ils m'opèrent eux, eh ben, ils me feront la FIV derrière. Quoi. Donc je vais, le 29 juin 2018, faire cette nouvelle opération qui s'appelle une hystéroscopie opératoire. Bon là on vous endort et puis on nettoie. Quoi.
Donc c'était la troisième fois que tu
faisais. C'est la troisième fois que je le faisais. Et là ça se passe hyper mal. Autant toutes les autres fois c'était hyper bien passé, autant là ça se passe mal et je sens que ça va mal se passer. Je passe une heure et demie dans une espèce de pièce d'attente avant l'opération, un truc glauquissime à regarder énergie 12, mais genre c'était horrible. L'anesthésiste, l'interne qui vient pour me poser le cathéter là, pour mettre le produit, elle n'arrive pas à me piquer, donc elle me fait 12 piqures sur la main. Et je me dis, mais je suis où quoi ? Enfin, c'est pas possible. Elle n'y arrive pas, donc elle ne me le pose pas. Et puis j'arrive dans la salle d'opération et donc arrive l'anesthésiste en chef qui finit par me poser le truc là, le cathéter, et qui me dit bon bah allez on va vous endormir, et en fait je ne m'endors pas et je sens que ça va pas et que j'ai hyper mal et que je suis hyper mal, et je leur dis mais j'ai hyper mal au bras et en fait je sens que ça va pas bien se passer quoi. Bon finalement je m'endors. Et puis ça n'a pas dû durer très longtemps. Et je me réveille. Et là, je suis au plus mal. Mais comme j'ai jamais été. Alors que pourtant, Dieu sait que j'ai été opérée. Pour tout ça. Et là, je suis hyper mal. Et je souffre, mais horriblement, dans tout mon corps. J'ai mal. C'est horrible. Et je ne comprends pas, en fait. C'est horrible. On ne peut pas me parler. J'ai des douleurs dans le corps qui sont atroces. Bon, je rentre chez moi. Parce qu'évidemment, c'est en ambulatoire. Donc, il faisait chaud, en plus. Enfin, tout était horrible. Et vraiment, j'ai mal. Mais comme j'ai jamais eu mal... Et je rentre chez moi, je dors, je sais pas combien d'heures. Et je me dis, bon, bah maintenant c'est fait, ça y est, on va se tourner vers l'après, et puis on repart, quoi. Et donc là, l'hôpital où j'ai fait cette opération et qui me prend après pour la FIV, me dit, bon, bah écoutez, maintenant l'utérus est propre, donc on va faire une échographie, et puis vous allez refaire tous les examens pour qu'on vous reprenne en FIV en septembre. Donc ça, c'était en juin. Il m'envoie faire un examen, qui est une hystéroscopie, mais du coup diagnostic, pour vérifier que tout est propre, que le col de l'utérus est bien, etc. Et là, on découvre que j'ai une synéchie. Alors une synéchie, on dirait que ça n'en finit pas, c'est quand l'utérus a été fragilisé, très fragilisé, bah, comme le mien, vu tout ce qui s'est passé, les parois de l'utérus s'accolent, et du coup, un embryon ne peut pas s'implanter, en fait. Donc il faut ouvrir la synéchie. Alors les synéchies, c'est un truc dont à nouveau on ne parle jamais, mais que plein de femmes ont, et qui peuvent expliquer en fait quand on n'arrive pas à avoir des bébés. Ça peut être suite à une MST, ça peut être suite à une IVG qui n'a pas été bien faite. Enfin, il y a plein de raisons d'avoir une synéchie, mais encore faut-il aller le chercher, quoi. Et donc on découvre que j'ai une synéchie. Donc à l'hystéroscopie, à l'examen, c'est une caméra qu'elle passe, la médecin en ouvre une. Et mais elle me dit que les autres, elles peuvent pas les ouvrir, qu'il faut opérer, quoi. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce truc, ça n'en finit pas. Enfin, c'est un truc de dingue. Et moi, je veux ce putain de bébé, quoi. Donc, on va finir par y arriver, c'est pas possible. Et donc, là, l'hôpital me dit, écoutez, ça nous arrive jamais, on comprend pas, mais bon, voilà, il faut ouvrir la synéchie. Par chance... Dans tout ce parcours de merde, le chef de service de l'hôpital qui m'a fait ce protocole, qui est donc à Béclair, qui était hyper gentil, hyper présent, qui répondait à mes mails, qui m'appelait. Il me dit, écoutez, il y a une synéchie, effectivement, il faut l'ouvrir. Maintenant, c'est vous qui décidez. Il me dit, j'en ai parlé avec le professeur qui a dit qu'il fallait l'ouvrir. Mais c'est vous qui décidez. Je lui dis, mais je décide quoi ? Il me dit, ben, c'est vous qui décidez si vous voulez l'ouvrir ou pas. Je lui dis, mais je comprends pas. Ce que vous me dites, c'est qu'on peut faire la FIV sans le faire l'opération. Il me dit, franchement, les probabilités de succès sont extrêmement faibles, mais oui, c'est possible. Bon. Et donc là, je décide de téléphoner au médecin qui m'avait, les deux fois précédentes, fait l'hystéroscopie où ça s'était très bien passé, pour avoir son avis. Parce que c'était genre le ponte qui me dit, écoutez, moi je peux vous ouvrir la cinéphile, parce que je m'étais dit, je retourne plus la faire enlever, ouvrir là où j'étais. Enfin, ça s'est trop mal passé, donc si je le fais, c'est ailleurs, quoi. Ça, c'est pas discutable. Mmh. J'avais dit à l'hôpital, je vous préviens, je le fais ailleurs parce que j'ai trop mal vécu la dernière fois. Il m'avait dit, ok. Et donc le médecin me dit, écoutez, on peut l'ouvrir. Maintenant, ça va encore fragiliser votre utérus, donc on peut pas être sûr qu'il va pas y en avoir une nouvelle après, quoi. Et du coup, on décide avec mon mari de dire, bah, on va essayer de faire la FIV et on laisse la cinéchie, on verra bien. Et l'hôpital accepte. Je pense que quelque part, ils se sont dit, oh là, on va un peu merder, je sais pas, on va lui faire, on verra bien, quoi. Et donc, en septembre 2018, ils me reprennent en FIV. Donc là, dans les deux ans qui se sont passés entre mes deux filles, j'ai changé de boulot, j'ai un énorme boulot, j'ai des grosses équipes, et donc le contexte un peu speed. Donc je recommence le protocole, j'arrive le matin à 5h30 avec mon ordi, je travaille de là-bas en attendant qu'on me prenne, parce qu'à chaque fois, c'est des attentes qui sont hyper longues, il y a 50 personnes sur liste d'attente, tous les matins, ça ouvre à 5h, c'est jusqu'à 9h. Donc j'y vais un matin sur deux, prise de sang, échographie, je fais mes petites piqûres et tout ça. Bon, en me disant, bon, t'as déjà deux enfants. Comme je m'étais dit la première fois, t'as déjà un enfant. Là, je me dis, t'as déjà deux enfants. T'as vécu un truc qui a été hyper dur. De toute façon, au pire, ben, ça marchera pas. Et puis voilà, c'est pas grave. Enfin, t'as quand même une chance incroyable. T'as deux bébés et puis bon, t'as deux enfants. On verra. Donc on fait le protocole. J'ai à nouveau... on arrive à la ponction, difficilement, au bout de 20 jours de traitement. Ouais. Parce que les embryons prenaient... Enfin, les ovocytes n'étaient pas assez matures. Enfin, bon, bref. Ils me disent, on fait la ponction. Donc, anesthésie locale, oui, madame. Anesthésie locale. Donc là, je suis marrant, j'ai un souvenir hyper particulier de cette fois-ci. Parce que les deux médecins qui faisaient la ponction, elles étaient hyper gentilles, hyper, hyper douces. Et elle m'avait dit, vous voulez quoi comme musique? J'ai trouvé que c'était hyper bizarre comme question. J'avais dit, bah, je sais pas, vous avez quoi? Et elle m'a dit, bah, la dame d'avant, elle a mis Barry White. Je dis, ok, allez, on va faire Barry White. Donc, ils m'ont ponctionné 8 ovocytes en écoutant Barry White. Et 8, c'est très peu, hein, il faut le savoir, parce que, en général, ils ont leur enfant entre 12 et 15. Pour ma fille, j'en avais eu 12. Parce que, en fait, 8 ovocytes qui sont de bonne taille, il faut ensuite les féconder, il faut qu'ils prennent. Il faut que les embryons se développent. Ensuite, il faut tester génétiquement. Il faut qu'ils passent le test génétique, qu'ils soient sains, qu'ils survivent. Enfin, bon, 8, c'était vraiment pas beaucoup, quoi.
Mais pourquoi ils en ont pris si peu?
Mais en fait, c'est que... C'est pas qu'ils en ont pris si peu, c'est qu'il y en avait que 8 à prendre qui étaient matures.
D'accord.
C'est-à-dire que même après 20 jours de protocole, bah, finalement, j'ai moyennement répondu, quoi. Bon, 8, on verra bien. Il s'avère que par la suite, j'ai une amie qui a fait le même protocole au même endroit que moi, et sur 8, elle en a eu 0, quoi. Donc 8, c'était vraiment faible. Et ils me disent, bah écoutez, maintenant, dans 5 jours, quoi. Bon. 5 jours plus tard, on arrive à l'hôpital, et là, ils me disent, ben, vous avez une chance incroyable, il y a 2 embryons. Sur 8, quoi. C'était dingue, parce qu'en fait, c'est 25%. Or, ça veut dire qu'ils avaient tout passé, quoi. C'était des embryons warriors, quoi. Et donc, ils me disent, ben, on va vous en implanter 2, comme la fois précédente. Ok, très bien. Donc là, le même chef de service qui m'avait accompagné pendant tout le parcours, c'est lui qui vient et c'est lui qui le fait. Parce que c'est un geste qui est hyper précis et du coup, en général, c'est toujours le chef de service ou le professeur qui le font. Donc c'était quand même une belle revanche, au moins d'arriver là, tout en sachant que ça pouvait ne pas prendre. Hein. Mais au moins d'être arrivé là, c'était déjà cool. Donc on fait... on voit le parcours de l'embryon, en fait. On voit à l'échographie l'embryon qui se promène, hop. Et puis voilà, je repars, quoi. Et on part en vacances. Donc ça, c'était le 20 octobre. C'était la veille de l'anniversaire de mon fils. Je m'en souviens très bien parce qu'on avait prévu... c'était son anniversaire, c'était ses 6 ans, après-midi bowling. Donc le matin, j'étais allée faire hop, mon transfert, après-midi bowling. Et puis on part en vacances. Et du coup, on part au Maroc. Et je peux pas faire de prise de sang là-bas puisque bah, on est en vacances et que j'ai pas d'ordonnance, quoi. Donc il fallait que je rentre à Paris, donc que je sache plus tard que ce que j'aurais pu savoir si la grossesse avait prise ou pas. Donc je pars avec genre, je sais pas, 4 tests de grossesse, quoi. Et j'en fais un trop tôt, et il est négatif. Donc je me dis, bon bah de toute façon, je savais que ça pouvait ne pas marcher, j'ai une cinéphile, c'est compliqué. Et je me dis, tu vas quand même en refaire un dans 2 jours, hein, sait-on jamais. Et je me lève un matin hyper tôt, tout le monde dort, je fais mon petit test et là il est positif. Et je me dis, oh, truc de malade, positif. Donc j'attends que Marie se réveille et je lui montre, il me dit, quoi, ça a marché? Je dis, ouais, ça a marché. Bon, après, quand on a une synéchie, on peut, enfin, j'étais pas claire et personne ne m'avait clairement dit ce que ça pouvait induire sur le début de la grossesse. Si ce n'est que je savais que ça pouvait être, enfin, que les risques de fausses couches pouvaient être un peu plus importants, quoi. Mais bon, après, une fois qu'on a dit ça, quand on a deux enfants, un boulot, je me suis pas allongée, quoi. Enfin, c'était, je me suis dit, de toute façon, c'est déjà tellement un miracle que si ça doit tenir, ça tiendra. Et donc, j'ai vécu les trois premiers mois hyper normalement. J'ai été hyper malade pour le coup, ce qui n'était jamais arrivé les fois d'avant. J'avais vraiment, j'avais mal au cœur, c'était horrible. J'étais hyper fatiguée. Mais bon, je travaillais, au bureau, personne ne savait rien. Et à ce moment-là, en plus, avant de savoir que j'étais enceinte, j'avais été chassée pour un nouveau poste, un gros gros poste. Et je m'étais dit, non, je fais ma FIV, c'est pas le moment. Et mon mari m'avait dit, tu sais pas de quoi la vie est faite. Peut-être cette vie, elle va pas marcher. Il faut avancer, il faut se relancer. Va faire les entretiens, puis tu verras bien, quoi. Et puis ça a hyper bien marché, mes entretiens. Et en plus, je me suis retrouvée enceinte. Et ça, et donc tout a marché, quoi, en gros. Ça y est, enfin la retournée, quoi. Et puis, du coup, quand j'ai su, bah, c'était là, en décembre 2018, que à la fois la grossesse avait tenu et que bah, j'allais avoir une offre, j'ai annoncé à mon nouvel employeur, que, enfin, mon futur potentiel nouvel employeur, que j'étais enceinte. Pour un poste au comité de direction d'une boîte, enfin, un truc où j'allais devoir pas mal bosser et où en plus il y avait un genre de rôle modèle féminin, quoi. Donc c'était pas anodin, j'allais pas me être planquée dans un bureau pendant des mois, quoi. Et pour eux, ils m'ont dit, ça ne change rien pour nous, aucun problème. J'étais là, oh ouais. Bah, alors là, c'est vraiment, enfin, les mentalités changent, c'est une bonne nouvelle. Donc on a annoncé aux enfants que j'étais enceinte. Alors là, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient arrêtés sur un truc qui était tellement négatif que je pense qu'ils ont pensé que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Donc, c'était Noël, c'était la période de Noël. On leur avait fait une boîte avec plein de trucs. J'avais mis une photo de l'échographie, on avait mis des livres Camille, grande sœur, on avait fait des t-shirts grande sœur et grand frère. Et c'était le jour de Noël, ils ouvraient et en fait, ils ne comprenaient rien. J'en ai filmé, c'était un sketch, quoi. Et puis, ils sortent tout et mon fils de 6 ans me dit « Je ne comprends pas. » Il me dit « Mais j'ai un bébé dans le ventre. » Il dit « Mais non. Il était malade, tu l'as enlevé. » Je dis, ouh. Ok, non, en fait, maintenant, ça va. Ça y est, le bébé n'est plus. Il y a un nouveau bébé, il est plus malade. Oh, bon, bref. Donc, finalement, ils ont compris. Et puis après, j'ai eu une grossesse qui a été super. J'étais hyper en forme. J'ai pris mon nouveau boulot. Franchement, tout s'est hyper bien passé. Et j'ai arrêté de travailler normalement un mois avant mon terme, et puis en fait j'ai accouché avec 3 semaines d'avance, donc en fait j'ai arrêté de travailler 10 jours avant mon terme, enfin avant d'accoucher, au mois de juin, là il y a un mois et demi, et j'ai eu une super grossesse, et puis tout s'est hyper bien passé, quoi. Donc bon, maintenant je considère que j'ai 3 enfants, j'ai été au bout de ce que je pouvais, j'ai fait don de mon corps à la science pendant 7 ans, quelque part, oui. Donc là ça y est, je ferme boutique.
Et est-ce que tu penses du coup que justement toute cette expérience, pardon, ça t'a incité à avoir plus d'enfants que ce qui était prévu au programme, peut-être ?
Moi, je viens d'une famille de 3 enfants, et mon mari a une sœur jumelle, et une petite sœur qui est arrivée beaucoup plus tard, mais enfin, ils ont été 2, quoi. Et je m'étais toujours dit, donc j'aurais pas un enfant unique si c'était possible, hein, donc je m'étais toujours dit au moins 2. Une fois qu'on a eu les 2, on s'était dit, un petit 3e, c'est quand même sympa. Et puis, la façon dont ça s'est passé, le fait que j'ai dû faire cette interruption médicale de grossesse et que j'ai dû arrêter la vie, faisait que je concevais pas de m'arrêter là-dessus, en fait. Et que donc, il était évident que mon combat, ça serait d'avoir un 3e enfant, en fait. Et que jamais, enfin, que ça serait trop difficile pour moi. Déjà, quand j'ai eu ma fille, je m'étais pas dit, c'est ma dernière grossesse. Je m'étais jamais dit ça. Tu sais, parfois, quand tu vis ta grossesse, tu te dis, ça y est. Vraiment, ça y est, c'est la dernière. Moi, j'ai toujours été hyper bien enceinte en plus, donc ça a toujours été des moments chouettes. Ouais. Mais je m'étais jamais dit, c'est fini. Et puis après, quand on a fait cette interruption médicale de grossesse, je me suis dit, non, mais là, je peux pas rester là-dessus, c'est pas possible, quoi. Donc je savais que, enfin, j'espérais arriver à avoir ce 3e bébé. Après, là, j'ai vécu en me disant, c'est ma dernière grossesse. Si j'avais pas eu cette tout ce parcours, toute cette difficulté, et qu'il n'avait pas dû faire face à toute cette adversité, je pense qu'on aurait probablement fait un quatrième. Si on avait fait des grossesses, enfin des bébés normalement, quoi. De façon plus classique. Mais là, non. Là, je pense que... Et puis, il y a aussi un élément qui est l'âge. Aujourd'hui, j'ai que 35 ans. Ce qui, en soi, pour avoir un bébé de façon classique, est un âge qui est tout à fait normal, entre guillemets. Sauf que quand on rentre dans un protocole comme celui-là, des FIV, des pays, avec des taux de succès qui sont déjà tellement bas quand on est au pic de sa fertilité, plus les années passent, plus les probabilités sont basses, quoi. Ouais. Donc, si j'attends encore 3 ans, j'aurai 38 ans et mon taux de succès, il sera beaucoup plus bas. Et même si moi, j'ai jamais vécu les FIV d'une façon... j'ai jamais considéré que c'était lourd, difficile, parce que c'est pas mon caractère. Mmh. Bon, voilà. Ça reste quand même contraignant. Et puis, si c'est pour avoir des taux de succès qui soient aussi bas que ce que j'ai eu là, qui a marché, mais je veux dire, à un moment donné, là, on peut pas tirer pour le coup. Autant j'ai tiré une fois la boule blanche, la boule noire quand j'ai dû arrêter ma grossesse, autant là, on a eu, je sais, beaucoup de chance et que ce bébé est un vrai bébé miracle. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'histoire de ce bébé que j'ai eu il y a un mois et demi, elle arrive, enfin, je pense qu'elle vient avec une histoire qui est quand même particulière, en tout cas pour nous. J'espère qu'elle ne le ressentira pas comme ça, mais en tout cas pour moi, elle est particulière. Et du coup, je la regarde pas du tout pareil. C'est-à-dire que autant mes deux premiers, les trois premiers mois, j'ai trouvé que c'était horrible, hyper anarchique, surtout pour le premier. La deuxième, j'étais plus aidée, j'avais une nounou, donc c'était pas du tout pareil. Mais j'ai pas aimé les premiers mois. Autant là, le fait de savoir que c'est la dernière, le fait de savoir qu'on l'a tellement voulu, que je me suis tellement battue pour l'avoir, en fait, je la regarde comme une merveille, quoi. C'est-à-dire que j'ai une relation et une genre d'acceptation de la difficulté des premiers mois qui est pas du tout la même que les autres, quoi. Donc voilà.
Donc tu as 3 enfants et ton premier, vous savez pas s'il est porteur, ouais. Et vous pouvez pas faire de test.
En fait, la loi de, en France, la loi de bioéthique, génétique, c'est très encadré. Donc on considère que quand on est porteur d'une maladie génétique, on peut décider de savoir in utero, puisqu'en fait, là, c'est le choix des parents. Une fois que l'enfant est né, il a sa propre personne, et donc son libre arbitre, et que donc il doit pouvoir décider lui-même s'il veut savoir ou pas. Donc évidemment, si on a un enfant qui commence à avoir des signes de maladie, oui, évidemment, il va être pris en charge à l'hôpital, et donc testé. Mais en tout cas, si tout va bien, il y a ce qu'on appelle le consentement éclairé, et donc il faut attendre d'avoir 18 ans, que l'enfant ait 18 ans, pour qu'il décide en toute conscience, s'il souhaite savoir ou pas. D'accord. Donc, tant que notre fils va bien, et qu'il n'a pas de signe, et que tout va bien, eh ben on ne saura pas. Après, on y pense, en vrai, jamais. Sauf quand, par exemple, l'année dernière, un matin, il s'est levé, il ne pouvait plus marcher, quoi. Et je pense que n'importe quel parent se serait dit, il a une crampe. Enfin, au début, même moi, je me suis dit, il a une crampe, ou il tord du lâche-fille, enfin, je ne savais pas trop. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Oh, et si c'était le premier signe de la maladie ?» Et bon, finalement, c'était pas du tout ça. Il avait un rhume de la hanche. Alors, c'est un truc qu'ont les petits garçons entre 5 et 8 ans, où en fait, ils ont de l'eau dans l'articulation, et ça vient comme ça, et ça peut repartir comme ça. Il faut juste plus marcher. Mais en fait, il faut le savoir, quoi. Mais la peur que j'ai eue, du jour où quand il n'a pas marché, alors qu'on ne sait pas s'il est porteur ou pas, ça m'a fait me dire, ce jour-là, qu'on avait pris la bonne décision d'interrompre la grossesse. Parce que, en fait, on aurait eu un enfant dont on le savait qu'il était porteur. Donc, je pense qu'on l'aurait scruté, et je suis pas sûre qu'on aurait pu le laisser vivre normalement, en fait. Parce qu'on aurait analysé, ou en tout cas, j'aurais analysé chaque signe, chaque symptôme, chaque douleur, chaque machin, en disant oh « Et si c'était ça ?» Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas été capable d'assumer, en fait. Alors que, et je l'ai su, en fait j'ai compris ça le jour où mon fils, qui en vrai n'avait rien, on a eu tellement peur, alors qu'on ne sait pas, et que probablement qu'il a rien, et que plus les jours passent, plus il grandit, plus les chances qu'il n'ait rien augmentent, quoi. Donc lui on ne sait pas, et ses sœurs, on sait qu'elles n'ont rien. En tout cas, elles n'ont pas ça, alors ça veut pas dire qu'elles n'ont pas autre chose dans la vie, mais en tout cas, en tant que parents, ou futurs parents, nous on a considéré que notre responsabilité c'était de nous donner les moyens de faire en sorte qu'il n'ait pas à vivre ce que nous on vivait. Et que donc si aujourd'hui la médecine nous permettait de pouvoir mettre fin à cette hérédité de maladie dont ma mère souffre énormément, hein, donc c'est pas du tout une maladie anodine, sinon évidemment on pourrait pas faire tout ce protocole, c'était de notre responsabilité de leur donner la chance de pas avoir à vivre ça. Et puis c'est aussi de se dire qu'une fois que tu sais, tu peux plus faire comme si tu savais pas. C'est-à-dire que le jour où... Enfin, rétrospectivement, c'est vraiment l'effet papillon, quoi. C'est un jour, ta vie change. Enfin, tu apprends quelque chose qui fait que ta vie bascule. C'est-à-dire que... Moi, j'ai deux frères. J'en ai un qui n'est pas porteur et un qui n'est pas testé. N'a pas souhaité faire le test. Le jour où j'ai dit, pour faire plaisir à ma maman... D'ailleurs, je sais pas si elle sait que c'était pour le faire plaisir. Bon. Que j'allais aller faire ce test, pensant que quand on n'était pas malade, on n'avait rien... Ma vie a changé. Et qu'il a fallu adapter notre vie de famille et nos projets de bébé en fonction de cette maladie. Et que finalement, le cours de notre vie a changé le jour où on a appris cette nouvelle. Et que même le professeur de génétique qui m'a reçu ce jour-là m'avait dit « Il ne faut pas toujours tout savoir. » Et c'est parce qu'il m'a dit « Il ne faut pas toujours tout savoir » d'ailleurs qu'on n'a pas testé notre fils. Et quelque part, une fois que tu sais, et d'ailleurs c'est aussi quand on a fait le diagnostic prénatal, on s'était dit, si on sait, on peut pas faire comme si on savait pas. Une fois que tu sais, nous on a considéré que on pouvait pas faire comme si on savait pas. Mais c'est vrai que les enfants qu'on a aujourd'hui, si on n'avait pas su, on n'aurait pas eu ces enfants-là. Enfin, c'est très bizarre en fait de se dire ça. Notre fils, si, mais nos deux filles, c'est des bébés qu'on a eus parce qu'on a fait des choix qui sont hyper particuliers, enfin, qui sont des nôtres et qui sont des... Enfin, si j'avais pas arrêté ma première grossesse pour faire la FIV, ma fille n'aurait pas été ma fille, enfin, ça aurait été une autre fille, et puis mon bébé d'aujourd'hui aussi, quoi. Et c'est bizarre de se dire ça. Mais en même temps, c'est l'histoire de notre famille, et aujourd'hui, on a réussi, en tout cas, à ce qu'au moins deux de nos trois enfants n'aient pas à vivre ce qu'on a vécu. Ce que moi, j'ai vécu... Et ce qu'on a vécu en tant que couple, et ce que moi j'ai vécu dans mon corps, et tant mieux, quoi. Donc, je trouve que pour ça, ça valait le coup, quoi.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui sont en parcours de FIV ?
Je pense que... Alors, il y a le parcours de FIV, et puis le parcours de FIV des pays, qui sont encore deux choses... Enfin, c'est le même parcours, mais la résultante n'est pas la même. Moi, je dirais que, déjà, dans mon parcours, ma chance, ça a été d'être... que quelque part, je suis hyper fertile, quoi. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que je le distinguerai des FIV classiques, parce que souvent, des mamans ou des futures mamans qui sont en parcours de FIV, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des bébés. Moi, ma chance, c'est d'avoir eu aucun problème pour avoir des bébés. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que toutes mes FIV ont marché, et que j'ai même eu des grossesses à des moments qui n'étaient pas du tout prévus, même sous contraception. Et que quelque part, c'est ce qui nous a, entre guillemets, sauvés de toute cette difficulté de parcours. Mais qu'il a fallu avoir effectivement beaucoup de combativité, beaucoup de résilience, beaucoup d'acceptation de la difficulté, et que voilà, chaque moment difficile a été, il a fallu l'accepter la déception, accepter la douleur, accepter le deuil, que ce soit le deuil d'un projet, le deuil d'un bébé, enfin voilà, et puis repartir. Mais que finalement, y a vraiment de l'espoir, quoi. Parce que, et c'est pour ça que d'ailleurs je t'ai contactée et que je voulais pouvoir faire cette interview aujourd'hui. Parce que moi, j'ai pas eu de moment de désespoir, entre guillemets, de résignation. Parce que j'ai toujours cru en fait au fait que ça marcherait un jour. Et du coup, je pense que. Ma force, ça a aussi été de me dire que je voulais des enfants, mais que si ça marchait pas, en tout cas pas tout de suite, ben j'avais d'autres choses à côté, en fait. J'avais un mari, j'avais des amis, j'avais... Voilà. Et que en fait, j'ai pas eu cette obsession. J'ai pas vécu ce parcours comme une obsession, en fait. Et je me suis toujours dit, bon, tu le fais, tu le vis, mais tu n'investis pas tout dessus. Et quelque part, il y avait un genre de lâcher prise un peu tout le temps. Et je pense que ça m'a aussi aidée à ce que ça marche. C'est-à-dire que souvent, on dit qu'il y a des femmes qui sont des parcours de FIV où, en fait, cristallise tout dessus et puis finalement elle décide d'arrêter parce que ça marche plus et puis elle tombe enceinte, quoi. Alors moi il y avait beaucoup de ça, c'est-à-dire que je m'étais toujours dit ben tu fais ce parcours, il est difficile, mais en même temps ben, tu verras bien, quoi. Si ça marche, c'est tant mieux, et puis si ça marche pas, tu y retourneras. Et puis si ça marche pas, tu y retourneras. Et puis voilà, et puis quand ça a pris, j'y ai cru, et puis j'ai toujours accepté les sentiments et les sentiments que j'ai pu vivre au travers de ce parcours. C'est-à-dire que quand j'ai été triste, j'ai accepté d'être triste en me relevant toujours très vite parce que je suis très résiliente et ça c'est, bon, c'est mon caractère, hein, mais je me suis jamais j'ai jamais occulté l'épreuve, quoi. Et je pense que le fait de l'avoir vécu, d'avoir été accompagnée, parce que j'ai toujours fait le choix d'être accompagnée aussi, pour mes enfants, pour mon mari, pour moi.
Par un psy.
Ouais. Chaque fois que j'en ai eu besoin, j'ai jamais eu aucun problème à le faire. Et j'ai toujours beaucoup parlé. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Mon mari et moi, on a toujours eu des façons très différentes de vivre ces épreuves, qui sont des épreuves de couple, hein, je veux dire. Où lui c'était plutôt l'autruche en mode j'en parle pas, j'avance, je bosse et je ferme les écoutilles, et moi c'était l'inverse, quoi. C'était de dire non, il faut en parler, il faut que ça existe, il faut mettre des mots dessus. Donc ça a créé quand même des, enfin ça n'a pas été facile à vivre parce que moi j'avais besoin d'en parler, lui avait besoin de pas en parler, donc autant te dire que voilà, on n'était pas hyper alignés. Mais finalement, je pense que je nous ai toujours relevés. Et je pense que le fait d'avoir fait le choix d'être accompagnée, bon déjà médicalement il n'y avait pas le choix, mais d'être accompagnée dans le parcours quand j'avais besoin, ça m'a aussi beaucoup porté, beaucoup aidé. Donc je pense que ça c'est extrêmement important. Et puis j'ai eu un accouchement le premier jour de la canicule, 3 semaines en avance, d'une petite fille en pleine forme, et puis voilà, et puis voilà, le chapitre, quelque part, il est clos, le livre, je le ferme, et puis on avance, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Ah, une maman parisienne, je pense que c'est une maman qui vit à 1000 à l'heure. C'est une maman qui a 4 vies, qui jongle entre l'école, le boulot, le métro, l'intendance, et puis l'effervescence de la ville, la vie sociale. Et puis voilà, et puis une maman parisienne qui n'est pas très, très entourée, qui est très aidée, parce qu'aujourd'hui on a mis en place une genre d'intendance, quoi, à la maison, donc on est très aidée. Mais il a fallu s'organiser beaucoup, très bien. Puisqu'on a tous les deux boulots qui sont quand même assez prenants. Bon, là, je suis en congé maternité, donc j'en profite, hein, mais c'est pas notre vraie vie. Donc, une maman parisienne, je pense que c'est une maman qui jongle beaucoup et qui est à peu près sur tous les fronts.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
Et à Levallois, il y a un restaurant qui est dans un parc, qui s'appelle Les Mioches, qui est dans un parc et où en fait c'est hyper bon et c'est genre des pokéballs, des plats, enfin c'est une super cuisine et en fait il y a des aires de jeu partout. Donc en fait on peut déjeuner avec les enfants qui vont jouer, qui reviennent avec les copains, donc c'est topissime. Faut pas trop le dire, hein, parce que sinon il n'y aura plus de place. Mais vraiment, ça c'est royal. On y est à peu près tous les dimanches dès qu'il ne pleut pas. voilà. Après, aujourd'hui il y a plein de restos dans Paris ou en banlieue avec des brunchs, avec des animations enfants. Nous on est très preneurs de ça. Donc il y en a un à Levallois qui s'appelle Polpo par exemple. Il y a le Bouddha Bar à Paris. Il y en a plein maintenant, des endroits comme ça. Puis il y a des friches industrielles aujourd'hui qui se sont ouvertes avec des animations enfants. En 7 ans, je vois qu'il y a une évolution incroyable. Alors on n'est pas encore comme en Angleterre, hein, puisque en Angleterre il y a des chaises hautes partout dans les restaurants, c'est exceptionnel. Dès qu'on arrive, tout de suite il y a un menu enfant, tout de suite les enfants sont servis. On n'en est pas là, mais il y a quand même beaucoup de progrès qui a été fait.
Quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Projet rien que pour moi, déjà j'ai changé de boulot il y a 5 mois, enceinte, et ça c'était un projet pour moi, c'était un challenge personnel, donc déjà je vais profiter de mon congé mat et puis y retourner. Donc là tout de suite rien que pour moi, je dirais que c'est ça, parce que c'était un peu, ça s'est fait dans un contexte qui était quand même pas le plus propice à redémarrer un nouveau gros boulot. Et puis après, j'ai la chance de pouvoir suffisamment... aujourd'hui, j'ai une nounou à la maison, etc. Donc j'arrive quand même à aller me faire masser une heure. Enfin, toi, je trouve toujours quand même du temps pour moi aujourd'hui, et j'en ai besoin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de profiter de mon congé maternité avec mes enfants. C'est aussi que j'ai du temps pour moi et que je suis pas tout le temps dans la contrainte, dans l'effervescence de ça s'arrête jamais en fait. Voilà. Et puis les projets en famille. On a toujours beaucoup voyagé avec les enfants. Et du coup, on part aux prochaines vacances de la Toussaint au Maroc, à Marrakech, en famille. Donc ça, c'est notre prochain projet familial. Voilà.
Merci beaucoup, Rebecca.
Merci.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Rebecca, n'hésitez pas à retrouver la photo de l'épisode 36 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.